Fernand Caballero. La mouette. Roman traduit par Don Théotime Autet. Deuxième partie. En Espagne, où le caractère national est ennemi de l'affectation ou est peu exigeant, et l'on ne connaît pas ce qu'ailleurs on appelle le bon ton. Le bon ton, ici, n'est autre choix que le naturel, parce que dans ce pays, tout ce qui est naturel est par cela même distingué. L'auteur. Chapitre 1er. Le mois de juillet avait été extrêmement chaud à Séville. Aussi, les réunions du soir se tenaient dans ces cours intérieures, délicieuses, où les belles fontaines de marbre, avec leurs jets d'eau, disparaissaient presque derrière les masses formées par une quantité de vases de fleurs. Au toit des galeries qui entouraient ces cours étaient suspendues de grandes lanternes ou des lustres de cristal qui répandaient des torrents de lumière. Les fleurs parfumaient l'atmosphère et la grâce et l'éclat de cette scène étaient encore relevés par la richesse de l'ameublement et surtout par les jolies femmes de ces villes dont le caquetage plein d'entrain et de gaieté se mêlait au doux murmure des fontaines. Une nuit, vers la fin du mois, il y avait foule chez la jeune, jolie et élégante comtesse d'Algar. On regardait comme un grand bonheur d'être admis chez elle, et pourtant, il n'y avait rien de plus facile, car la maîtresse de maison était si affable qu'elle accueillait tout le monde avec le même sourire et la même cordialité. La facilité avec laquelle on recevait tous ceux qui se faisaient présenter n'était pas tout à fait du goût de son oncle, le général Santa Maria. C'était un vieux militaire du temps de Napoléon, à l'âme belliqueuse par excellence, et, comme l'étaient souvent les militaires de ce temps-là, un peu cassant, un peu exclusif, un peu absolu et méprisant. C'était enfin un véritable enfant de Mars, pleinement convaincu que toutes les relations entre les hommes doivent uniquement consister dans le commandement et l'obéissance, et que l'objet principal et la plus grande utilité de la société et de placer et de maintenir chacun de ses membres au rang qu'il doit occuper. Pour tout le reste, il était espagnol comme Pélage et brave comme le Cid. Le général, sa sœur, la marquise de Guadalcanal et d'autres personnes jouaient au Tresillo. Quelques-uns parlaient politique en se promenant dans les galeries. La jeunesse des deux sexes, assise auprès des fleurs, causait et riait, et l'air ne résonnait que de voix joyeuses. La comtesse, à demi couchée sur un sofa, se plaignait d'une forte migraine, ce qui, du reste, ne l'empêchait pas de se montrer gaie et gracieuse. Elle était petite, mince et blanche comme l'albâtre. Sa riche et blonde chevelure flottait en longs tire-bouchons à l'anglaise. Ses yeux, grands et bruns, son nez, ses dents, sa bouche et l'ovale de son visage étaient des modèles de perfection et sa grâce était incomparable. Extrêmement aimée de sa mère, adorée par son mari, qui n'aimant pas lui-même le monde, mais pleinement confiant dans sa vertu, lui laissait une entière liberté, la comtesse était en réalité une enfant gâtée. Mais, grâce à son excellente nature, elle n'abusait pas de ses privilèges. Sans avoir une intelligence supérieure, elle avait celle du cœur. Elle sentait bien et avec délicatesse. Toute son ambition était de plaire et de s'amuser, sans sortir de la modération. Ce soir-là même, revenue de la promenade, fatiguée et un peu indisposée, elle avait changé de toilette et portait une simple robe de mousseline blanche. Ses bras, blancs et potelés, se montraient à travers les dentelles de ses manches. Elle avait oublié d'ôter ses bracelets et ses bagues. Près d'elle était assis un jeune colonel, récemment arrivé de Madrid, après s'être distingué dans la guerre de Navarre. La comtesse, qui n'était pas hypocrite, lui prêtait toute son attention. Le général Santa Maria les regardait de temps en temps en se mordant les lèvres d'impatience. « Du fruit nouveau, disait-il. Elle ne serait plus fille d'Ève si la nouveauté ne la tirait pas. Un freluquet, 24 ans et déjà avec 3 galons. On n'a jamais vu une pareille prodigalité de grade. Il y a 5 ou 6 ans, il allait encore à l'école et il commande déjà un régiment. On viendra nous dire qu'il a gagné ses grades par des actions d'éclat, mais je dis, moi, que le courage ne donne pas l'expérience et que sans expérience, personne ne sait commander. Colonel de l'armée à 24 ans. Je l'ai été, moi, à 40 ans, après avoir été dans le Roussillon, en Amérique et dans le Portugal, et je n'ai obtenu le grade de général qu'en revenant du Nord et après avoir combattu dans la guerre de l'indépendance. Messieurs, la vérité est que nous sommes tous devenus fous en Espagne, les uns par ce qu'ils font, les autres par ce qu'ils laissent faire. » En ce moment, quelques exclamations bruyantes se firent entendre. La comtesse elle-même sortit de sa torpeur et se leva d'un bond. « Enfin, voilà le perdu retrouvé » s'écria-t-elle. « Soyez mille fois le bienvenu, malheureux chasseur et malencontreux cavalier. Vous nous avez fait une belle peur. Mais comment cela se fait-il? Vous êtes comme s'il ne vous était rien arrivé. Est-ce vrai ce qu'on raconte d'un merveilleux médecin sorti des ruines d'une forteresse et d'un couvent comme un être fantastique? Racontez-nous, duc, toutes ces choses extraordinaires. » Le duc, après avoir reçu les félicitations de tous au sujet de son retour et de sa guérison, s'assit en face de la comtesse et entra dans le récit de tout ce que connaît le lecteur. Enfin, après avoir beaucoup parlé de Stein et de Maria, il dit en terminant qu'il avait obtenu du médecin qu'il vint s'établir à Séville avec sa femme pour utiliser et faire connaître, lui, sa science, elle, les dons extraordinaires qu'elle avait reçus de la nature. « Vous avez eu tort, » dit carrément le général. La comtesse se tourna vivement vers son oncle. « Eh, mon Dieu, pourquoi donc a-t-il eu tort ? » demanda-t-elle. « Parce que ces gens-là, » dit le général, « vivaient contents et sans ambition, et que, dorénavant, ils ne pourront en dire autant. Or, selon le titre d'une comédie espagnole qui est un proverbe, il ne faut pas laisser le certain pour l'incertain. » « Croyez-vous, mon oncle, répondit la comtesse, que cette femme, douée d'une voix exceptionnelle, regrettera le rocher où elle restait attachée comme une huître, sans avantage ni gloire pour elle, pour la société, pour les arts ? Allons, ma nièce, as-tu sérieusement la prétention de nous faire croire que la société progressera beaucoup, parce qu'une femme montera sur le théâtre et se mettra à chanter des tanti palpiti ? « On voit bien, dit la comtesse, que vous n'êtes pas amateur de musique. »« Et j'en rends grâces à Dieu, répartit le général. Veux-tu que je perde le jugement comme tant d'autres avec cette fureur de mélomanie, avec cet effroyable déluge de notes qui s'est répandu sur l'Europe entière comme une avalanche? Veux-tu que j'aille encore augmenter par mon sot enthousiasme l'orgueil déjà si grand des rois et des reines de la roulade? Veux-tu que mon argent aille grossir le produit de la représentation, tandis que tant de braves officiers couverts de cicatrices meurent de faim, tandis que tant de pauvres femmes estimables et chrétiennes passent leur vie à pleurer sans avoir un morceau de pain à se mettre dans la bouche? Voilà ce qui crie vengeance, ce qui est un véritable sarcasme, expression à la mode maintenant, où l'on entend sortir de la bouche de ces bavards hypocrites que le mot « humanité ». Et j'irai, moi, jeter des fleurs à une prima donne dont tout le mérite consiste dans le do, ré, mi, fa, sol. Mon oncle, dit la comtesse, est la personnification même du statu quo. Tout ce qui est nouveau lui déplaît. Je vais tâcher de vieillir le plus vite possible pour lui être agréable. Tu t'en garderas bien, ma chère nièce, mais n'exige pas non plus que je rajeunisse pour flatter la génération présente. « À propos de quoi mon frère dispute-t-il » demanda la marquise, qui, occupée jusqu'alors par le jeu, n'avait pas pris part à la conversation. « Mon oncle, » dit un jeune officier qui était entré sans bruit et s'était assis près du duc, « mon oncle prêche une croisade contre la musique. Il a déclaré la guerre aux andantes, il proscrit les moderato et ne fait pas de quartier aux allegro. » « Mon cher Raphaël, » s'écria le duc en embrassant l'officier qui était son parent, et pour lequel il avait une très grande affection. Raphaël était petit, distingué, bien tourné, et sa figure était de celle qu'on dit trop jolie pour un homme. « Et moi, » répondit l'officier en serrant les mains du duc dans les siennes, « moi qui me serais fait couper les deux jambes pour vous épargner les mauvais moments que vous avez eus à passer, mais nous sommes en train de parler d'opéra, et je ne veux pas prendre le ton du mélodrame. » « C'est sagement pensé, » dit le duc, et il vaut mieux que tu me racontes ce qui s'est passé à Séville pendant mon absence. Que dit-on ici ? Que ma cousine, la comtesse d'Algar, est la perle des femmes de Séville. « Je demande ce qu'il y a de nouveau, dit le duc, et non pas ce que tout le monde sait. » « Monsieur le duc, Salomon a dit, et beaucoup de sages, moi entre autres, ont répété qu'il n'y a rien de nouveau sous la voûte azurée du ciel. » « Plût à Dieu que ce fût vrai, dit le général en soupirant, mais mon neveu Raphaël Arias est une contradiction vivante de son axiome. Il amène toujours de nouvelles figures à nos réunions, c'est insupportable. « Voilà déjà mon oncle, dit Raphaël, croisant le fer contre les étrangers. L'étranger est l'épouvantail du général Santa Maria. Monsieur le duc, si vous ne m'aviez pas nommé votre aide de camp alors que vous étiez ministre de la guerre, je n'aurais pas formé tant de relations avec les diplomates étrangers à Madrid et ils ne me brûleraient pas le sang avec leurs lettres de recommandation. Croyez-vous donc, mon cher oncle, que ce soit pour moi un bien grand plaisir d'avoir à servir de cicerone à tout voyageur de passage ici, ainsi que je suis condamné à le faire depuis mon arrivée à Séville ?»« Et qui donc nous oblige, répondit le général, à ouvrir nos portes toutes grandes à tout nouvel arrivant et à nous mettre à sa disposition. On ne le fait pas à Paris et bien moins encore à Londres. » « Chaque nation a son caractère et chaque société ses usages, dit la comtesse. Les étrangers sont plus réservés que nous, même entre eux. Il faut être juste. » « En est-il arrivé quelques-uns récemment ? Dit le duc. « Je demande cela parce que j'attends Lord G, qui est un des hommes les plus distingués que je connaisse. Est-il déjà à Séville ?»« Pas encore, répondit Raphaël. Pour le moment, nous avons ici d'abord le Major Fly, que nous appelons la mouche, parce que c'est ce que signifie son nom. Il sert dans les gardes de la reine et il est neveu du duc de W, qui est un des plus grands personnages d'Angleterre. « Ah bien oui, dit le général, il est cousin du duc de W, comme je le suis du grand turc. Il est jeune, élégant et beau garçon, poursuivit Raphaël, mais c'est un géant, de sorte qu'il faut le voir à une certaine distance pour bien juger de l'ensemble. » De près, il paraît si grand, si vigoureux, si carré, si épais, qu'il perd 100%. Quand il n'est pas à table, je l'ai toujours à mes côtés, que je sois chez moi ou dehors. Lorsque mon domestique lui dit que je suis sorti, il répond qu'il m'attendra, et quand il entre par la porte, je me sauve par la fenêtre. Il a l'habitude de faire des armes avec sa canne, et bien que ses coups de bouton ne fassent de mal à personne et ne frappent que l'air, comme il a le bras long et fort et que ma chambre est petite, il fait des trous dans les murs et a déjà cassé plusieurs carreaux de ma fenêtre. Il s'assied sur les chaises, s'y balance et s'y agite de telle façon qu'il en a déjà brisé 4. Aussi, la propriétaire de la maison, quand elle le voit arriver, devient furieuse. Quelquefois, il prend un livre et sait ce qu'il peut faire de mieux, car alors il s'endort. Mais les conquêtes sont son fort. C'est son cheval de bataille, son idée fixe et tout son espoir, bien qu'il ait travaillé en pure perte jusqu'ici. Il a, par rapport au beau sexe, la même illusion qu'avait par rapport au Douros, ce Galicien qui se rendit à Mexico, croyant que là, il n'aurait qu'à se baisser pour en ramasser. J'ai essayé de détromper mon homme, mais j'ai prêché dans le désert. Quand je lui parle raison, il sourit avec un air d'incrédulité en caressant ses énormes moustaches. Il a engagé sa parole à une héritière millionnaire, et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que cette espèce d'Ajax de 30 ans, qui dévore en beefsteak 4 livres de viande et boit 3 bouteilles de Xérès dans une séance, a fait croire à sa future qu'il voyage pour sa santé. L'autre Maulo, comme dit mon oncle, est un Français, le baron de Mende. Baron, dit le général avec aigreur. Oui, baron, comme moi je suis pape. « Cependant, mon oncle, quelle raison y a-t-il pour qu'il ne soit pas baron ?»« La raison, ma chère nièce, c'est que les vrais barons, non pas ceux de Napoléon ni les constitutionnels, mais ceux de vieille date, ne voyageaient pas et n'écrivaient pas pour de l'argent. Ils n'étaient pas aussi mal élevés, aussi curieux, ni questionneurs aussi fatigants. »« Mais pour Dieu, mon oncle, il peut bien être baron et questionneur. On ne perd pas la noblesse pour cela. » À son retour dans son pays, il va se marier avec la fille d'un pair de France. Il se mariera avec elle, répliqua le général, comme moi avec le grand turc. Mon oncle est comme saint Thomas, dit Arias, il veut voir pour croire. Mais pour en revenir à notre baron, il faut convenir qu'il est bien de sa personne, Quoi qu'il ait, comme moi, cessé de croître avant le temps. Il est d'un aimable caractère, mais il pose pour le savant et le lettré. Il parle de tout, de politique comme de beaux-arts, d'histoire comme de musique, de statistiques ou de philosophie, d'affaires ou de mode. Maintenant, il écrit, comme il dit, un livre sérieux qui doit lui servir d'échelon pour arriver à la Chambre des députés. Il a pour titre « Voyage scientifique, philosophique, physiologique, artistique et géologique en Espagne ». Avec des observations critiques sur son gouvernement, ses cuisiniers, sa littérature, ses routes et ses canaux, son agriculture, ses boléros et son système d'impôts. Négligé avec affectation dans sa mise, grave d'extérieur, circonspect, parcimonieux à l'excès, c'est un fruit malvenu de cette serre chaude d'hommes publics qui enfante, sans le secours du printemps, des produits prématurés, sans saveur et sans parfum. Ces hommes se lancent à toute vapeur vers l'avenir, à la poursuite de ce qu'ils appellent une position, et sacrifient à cela tout le reste. Existences tristes et tourmentées, pour lesquelles le jour de la vie n'a pas d'aurore. Raphaël, dit le duc en souriant, sais-tu que c'est de la philosophie que tu fais là, et que si Socrate avait vécu de notre temps, tu aurais été bien plutôt son disciple que mon aide de camp ? Je ne changerai pas ma situation contre l'apostolat, mon général, dit Arias. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que s'il n'y avait pas de si sots disciples, il n'y aurait pas de si détestables maîtres. Bien dit, mon neveu, fit le vieux général, il y a tant de nouveaux maîtres, et chacun d'eux enseigne une chose différente ou prêche une doctrine toujours plus nouvelle et plus étrangère. Le progrès, si magnifique et toujours si mal réglé. Général, répondit le duc, pour maintenir l'équilibre sur notre globe, il faut qu'il y ait du gaz et du lest. Ces deux forces, l'une d'impulsion, l'autre de résistance, devraient se considérer réciproquement comme nécessaires, au lieu de vouloir avec tant d'acharnement se détruire mutuellement. Ce que vous dites, répondit le vieux général, appartient aux doctrines de l'odieux juste milieu. C'est ce parti qui a le plus contribué à notre perte, avec ses opinions honteuses et sa méprisable phraséologie. Il a été jugé ainsi par le peuple, qui a plus de bon sens que les partisans soi-disant éclairés du modérantisme, misérables hypocrites à belle écorce et à mauvaise moelle, adorateurs de l'être suprême et ne croyant pas à Jésus-Christ. Mon oncle, dit Raphaël, déteste tant les modérés qu'il perd toute modération quand il les attaque. Tais-toi, Raphaël, dit la comtesse, tu combats toutes les opinions, tu te moques de toutes, et toi-même, tu n'en as aucune pour t'épargner la peine de la défendre. Ma cousine, s'écria Raphaël, je suis libéral, j'en prends à témoin ma bourse vide. Pourquoi donc serais-tu libéral ? Dit le général avec aigreur. Et pourquoi ne le serais-je pas, mon oncle ? Le duc l'est bien lui-même. « Pourquoi serais-tu libéral ?» répéta le vétéran, d'une voix haute et retentissante comme un roulement de tambour. « Allons, murmura Raphaël, mon oncle, à ce que je vois, ne permet qu'aux arts qui portent ce nom d'être libéraux. »« Voyons, ajouta-t-il en s'adressant à son oncle, qu'il aimait beaucoup à faire enrager, pourquoi le duc ne serait-il pas libéral ? Qui donc pourrait l'empêcher de l'être si cela lui convient ? Deviendra-t-il plus laid en devenant libéral ? Pourquoi, mon Dieu, ne pouvons-nous pas être libéraux ? Parce que le militaire, dit le général, ne doit être autre chose que l'appui du trône, le soutien de l'ordre, le défenseur de la patrie. Comprends-tu, mon neveu ? Mais, mon oncle ! Raphaël, interrompit la comtesse, ne te mêle pas de sujets aussi graves et poursuis ton récit. J'obéis. « Ah, cousine, dans l'armée qui serait sous tes ordres, on ne verrait jamais un acte d'insubordination. » Un autre étranger que nous possédons à Séville est un certain Sir John Burnwood. C'est un jeune homme de 50 ans, bellâtre, au visage souriant, avec une grande crinière fauve comme un lion de l'Atlas. Lorgnon inamovible, sourire idem, distribuant des poignées de main à droite et à gauche, bavard assommant, l'air toujours affairé et dans une agitation violente et perpétuelle, comme cet Allemand qui, pour la même cause, se jeta par la fenêtre. C'est un grand amateur de Paris et un célèbre sportman. Il est possesseur de vastes mines de charbon de terre qui lui rapportent 20 000 livres sterling de rente. « Je suppose, dit le général, que ce sont 20 000 livres de charbon de terre. » « Mon oncle, dit Raphaël, est comme les boursiers qui font monter ou baisser les rentes à leur gré. Sir John a parié qu'il monterait à cheval au sommet de la Géralde, et c'est le grand motif qui l'a amené à Séville. Il est vrai qu'un de nos anciens rois l'a fait. Mais le pauvre cheval sur lequel il monta ne put pas redescendre et resta, comme le tombeau de Mahomet, suspendu entre ciel et terre, et l'on fut obligé de le tuer à cette place élevée. Sir John est désespéré de ce qu'on ne lui permet pas de jouir de ce passe-temps royal. Maintenant, il veut, à l'exemple de Lord Elgin et du Baron Taylor, acheter l'Alcazar et le transporter dans sa résidence seigneuriale, pierre par pierre, sans oublier celles qui, selon ce qu'on dit, sont tachées pour toujours par le sang de Don Fadrique, à qui son frère, le roi Don Pedro, fit donner la mort il y a 500 ans. Il n'y a rien dont ne soit capable ces sires, ni une idée, si extravagante qu'elle soit, qui ne leur vienne à l'esprit. Il y a plus, continua Raphaël. L'autre jour, il m'a demandé si je pourrais obtenir du chapitre de la cathédrale qu'on lui vendît les clés dorées que le roi Maure présenta dans un bassin d'argent à Saint-Ferdinand quand il conquit Séville, et la coupe en agate dans laquelle ce grand roi avait coutume de boire. Le général donna un tel coup de poing sur la table qu'un des chandeliers tomba par terre. « Mon cher général, dit le duc, vous ne voyez donc pas que Raphaël charge à plaisir les couleurs de ses tableaux et que tout ce qu'il dit est pure folie ?»« Il n'y a pas de folie, répondit le général, qui ne soit probable chez les Anglais. » « Et il vous manque encore le meilleur, » continua Raphaël en dirigeant ses regards sur une jeune fille qui, assise à côté de la marquise, la regardait jouer. « Sir John était perdument amoureux de ma cousine Rita et la demandait en mariage. Rita, qui ignore absolument comment se prononce le monosyllabe « oui », lui a répondu par un non résolu et résonnant comme un coup de canon. « Est-il possible, Rita, dit le duc, que vous ayez refusé 20 000 livres sterling de rente ?»« Je n'ai pas refusé la rente, répondit gaiement la jeune fille, sans cesser de regarder le jeu. « Ce que j'ai refusé, c'est celui qui la possède. »« Elle a bien fait, dit le général, chacun doit se marier dans son pays. C'est le moyen de ne pas s'exposer à prendre un chat pour un lièvre. »« Elle a bien fait, dit la marquise, un protestant !» « Dieu nous en préserve !»« Et qu'en dites-vous, comtesse ?» dit le duc. « La même chose que ma mère, » répondit celle-ci. « Ce n'est pas une chose indifférente qu'un chef de famille soit d'une autre religion que les siens. Je crois, comme mon oncle, que chacun doit se marier dans son pays, et je dis, comme Rita, que je n'épouserai pas un homme uniquement parce qu'il aurait 20 000 livres sterling de rente. »« Du reste, » dit Rita, « il est fort épris de la danseuse Lucia del Salto. Aussi, quand ce monsieur aurait été de mon goût, je lui aurais fait la même réponse. Je n'aime pas la concurrence, et surtout avec des gens de théâtre. » Rita était nièce de la marquise et du général. Orpheline dès son enfance, et élevée par un de ses frères qu'il aimait tendrement, et par sa nourrice qu'il adorait et la gâtait, elle était, malgré cela, devenue une bonne et pieuse jeune fille. La solitude et l'indépendance dans lesquelles s'étaient écoulées les premières années de sa vie avaient donné à la fois à son caractère de la timidité et de la décision. À ce caractère piquant se joignait l'extérieur le plus agréable et le plus séduisant. Elle était de moyenne grandeur. Sa taille, qui ne s'était jamais soumise à la pression du corset, possédait toute la grâce et toute la souplesse que les romanciers français attribuent à tort à leurs héroïnes serrées dans leur étroite prison de baleines. C'est à cette désinvolture et à cette grâce de mouvement, ainsi qu'à la franchise et au naturel de leur manière, si attrayantes quand elles sont accompagnées par une gracieuse bienveillance, que les Espagnols doivent la réputation d'être si séduisantes. Rita avait la blancheur mate et unie d'une statue de marbre, ses beaux cheveux étaient noirs. Ses yeux, remarquablement grands et d'une couleur brun foncé, étaient garnis de longs cils noirs et couronnés de sourcils qui semblaient être dessinés par la main de Murillo. Sa bouche fraîche, le plus souvent sérieuse, s'ouvrait cependant par moments pour laisser échapper entre les deux rangées de ses dents blanches un joyeux éclat de rire. Mais sa réserve habituelle le lui faisait réprimer immédiatement parce que rien ne lui répugnait davantage que d'attirer l'attention et, quand cela lui arrivait, elle devenait de mauvaise humeur. Rita était la seule femme que son cousin Raphaël Arias eût sérieusement aimée, non avec une passion larmoyante et élégiaque, ce qui ne pouvait convenir à son caractère, le plus anti-sentimental qu'on pût rencontrer, mais avec un attachement vif, sincère et constant. Raphaël était un jeune homme excellent, plein de loyauté et de bon sens. Il avait une bonne conduite et était de noble naissance. De plus, il jouissait d'un bon patrimoine et c'était le mari que la famille de Rita eût désiré pour elle. Mais celle-ci, malgré la vigilance de son frère, avait disposé de son cœur à son insu. L'objet de ses préférences était un jeune homme, issu d'une famille illustre, brave garçon mais joueur. Et ce défaut avait suffi pour que son frère s'opposât à leur relation, au point qu'il lui avait défendu de le voir et de lui parler. Rita, avec sa fermeté de caractère et sa persévérance d'espagnol, persévérance dont elle aurait pu faire un meilleur emploi, attendait patiemment sans se plaindre, sans soupirer ni pleurer, le jour où elle prendrait 21 ans pour se marier sans scandale et malgré l'opposition de son frère. En attendant, celui auquel elle avait donné son cœur, toujours mis avec soin et monté sur de magnifiques chevaux, passait en se promenant dans la rue qu'elle habitait et ils s'écrivaient chaque jour. Ce soir-là, Rita était comme d'habitude entrée sans bruit au milieu de la réunion et s'était assise à sa place habituelle auprès de sa tante sous prétexte de la voir jouer. Cette dernière ne s'était pas aperçue de la présence de sa nièce avant que celle-ci, interrogée par le duc à propos du mariage qu'elle avait refusé, eût été obligée de répondre.
« Jésus ! Rita ! Dit la marquise, quelle peur tu m'as faite ! Comment es-tu arrivée jusqu'ici sans que personne t'ait entendue ?»«
Voudriez-vous donc, répondit Rita, que j'entrasse comme un régiment avec tambours et trompettes ?»«
Mais tu aurais bien pu du moins saluer les gens, » dit la marquise.
« Les joueurs ont facilement des distractions, » dit Rita. « Et tenez, voyez vos cartes. On a joué carreau et vous alliez faire une renonce pour le seul plaisir de me gronder. »
Durant ce dialogue, Raphaël, s'étant assis derrière sa cousine, lui disait à l'oreille
« Rita, quand faut-il que je demande la dispense ?»«
Quand je t'avertirai, » dit celle-ci sans tourner la tête.
Et que faut-il que je fasse pour mériter que cet heureux instant arrive ?
Te recommander à ma patronne, qui est l'avocate des choses impossibles.
Cruel, tu te repentiras quelque jour d'avoir repoussé ma blanche main. Tu perds le meilleur et le plus sensible des maris.
Et toi, la plus ingrate et la pire des femmes.
Écoute, Rita, continua Arias. Est-ce que mon oncle qui est en face de nous a mis une sentinelle pour garder ta tête et t'empêcher de la tourner vers celui qui te parle ?
J'ai un torticolis dans le cou.
Ce torticolis s'appelle Louise de Haro. Tu es donc toujours éprise de ce mangeur de cartes ?
Plus que jamais.
Et qu'en dit ton frère ?
Si cela t'intéresse, demande-le lui.
Et tu me laisseras mourir ?
Sans sourciller.
Je fais vœu au diable qui est au pied de la statue de Saint-Michel de lui faire dorer les cornes s'il emporte une bonne fois ton Louise de Haro.
Souhaite-lui du mal, car les souhaits malveillants des envieux portent bonheur.
Il me semble que je t'ennuie, dit Raphaël après quelques moments de silence en voyant bâiller sa cousine.
Tu ne t'en es donc pas encore aperçu jusqu'à présent, répondit Rita.
C'est-à-dire que tu as envie que je m'en aille. Cela se voit bien. Est-ce que ce Louise Descartes est si jaloux que cela ?
Jaloux de toi ? Répliqua sa cousine en éclatant de rire soudainement. Il est aussi jaloux de toi que de ce lourdeau d'anglais.
Merci de la comparaison, aimable petite cousine, et adieu pour toujours.
« Eh bien, va-t'en » répondit Rita sans tourner la tête.
Raphaël se leva furieux.
« Qu'avez-vous donc, Raphaël ?» lui demanda d'un ton langoureux une jeune personne quand il passa devant elle.
Cette nouvelle interlocutrice venait d'arriver de Madrid où un procès important avait nécessité la présence de son père. Elle revenait de ce voyage complètement modernisé et tellement imbue de cette manie qu'on a appelé le bon ton étranger qu'elle était devenue ridicule à un degré insupportable. Elle était sans cesse occupée à lire, mais des romans français exclusivement. Elle professait une sorte de culte pour la mode, adorait la musique et méprisait tout ce qui était espagnol. Raphaël, ayant entendu la question qu'elle lui adressait, voulut s'égayer un peu et lui répondit « Ma chère Héloïse, j'ai un jour de plus qu'hier et un de moins à vivre. »
« Je sais bien ce que vous avez, Arias, et combien vous souffrez. »
« Ma petite Héloïse, vous allez m'effrayer comme Don Basile. » Et il se mit à chanter « Quelle mauvaise mine !» etc.
« Vous dissimulez en vain, Arias. Il y a des larmes dans votre rire. »
« Mais pour Dieu, ma petite Héloïse, dites-moi donc ce que j'ai, car c'est une œuvre de charité que d'instruire l'ignorant. »
« Ce que vous avez, Arias, vous ne le savez que trop. »«
Et quoi donc ?»«
Une déception, » murmura Héloïse.
« Une quoi ?» demanda Raphaël, qui ne l'avait pas entendu.
« Une déception, » répéta Héloïse.
« Ah, bien, j'avais entendu désertion et mon honneur militaire se révoltait. Quant aux déceptions, j'en ai par centaines, comme tous les vivants, » et je suis fâchée de vous inspirer un sentiment de regret au lieu de vous voir satisfaite, ce que je désirerais de tout mon cœur.
Mais il y en a une qui assombrit votre vie plus que toute autre. C'est elle qui fait que pour vous, le mot de bonheur est une plaisanterie amère. C'est elle qui vous porterait à regarder la tombe comme un lieu de repos et la mort comme une amie souriante.
« Ah, ma petite Héloïse, j'aurais donné un doigt de ma main pour avoir de pareilles pensées à l'affaire de Mandigoria. Car lorsqu'on m'emporta à l'hôpital avec une balle dans le côté, que je sois damnée si la mort et la tombe me souriaient. »«
Que vous êtes prosaïque !» s'écria Héloïse indignée.
« Est-ce un anathème, ma chère Héloïse ?»«
Non, monsieur, » répondit avec ironie celle qui l'interrogeait. « C'est un magnifique compliment. »
« Ce qui est d'une vérité frappante, dit Raphaël, c'est que vous êtes charmante avec cette coiffure et que votre toilette est du meilleur goût. »«
Elle vous plaît ?» s'écria la jeune élégante, laissant soudain de côté le ton sentimental. « Cette étoffe est la dernière nouveauté. C'est le gros Redru Rollin. »
Il n'est pas surprenant que cet Anglais que vous voyez en face de vous et dont la tête dépasse toutes les plantes de ce massif se meure pour l'Espagne et les Espagnols.
« Quel mauvais goût !» répondit Héloïse avec un geste de mépris.
« Il dit qu'il n'y a rien au monde de plus charmant qu'une Espagnole avec sa mantille et que c'est le vêtement qui lui va le mieux.
« Quelle injustice !» s'écria la jeune fille. « Croit-il donc le chapeau trop élégant pour nous ?»
« Il dit, poursuivit Raphaël, que vous maniez l'éventail avec une grâce incomparable. »«
Quelle calomnie !» réclama Héloïse. « Nous autres élégantes, nous n'en faisons plus usage. »
« Il dit que ces petits pieds si mignons, si gentils, si jolis, demandent à grands cris des bas et des souliers de soie au lieu de ces horribles bottes, bottines ou brodequins, quel que soit le nom dont on les appelle. »«
C'est nous insulter !» s'écria Héloïse. C'est vouloir que nous reculions d'un demi-siècle, comme le dit si bien la presse éclairée de Madrid.
Il dit que les yeux noirs des Espagnols sont les plus beaux du monde.
Quelle vulgarité ! Ce sont les yeux des gens du peuple, des cuisinières et des fabricantes de cigares qui sont ainsi.
Que la démarche si légère, si gracieuse et si souple des Espagnols est la plus enchanteresse qu'on puisse imaginer.
« Mais ce monsieur, qui nous regarde comme des parias, ne sait donc pas que nous faisons tout notre possible pour nous corriger et marcher d'une manière convenable ?»«
Le mieux sera que vous le convertissiez, dit Raphaël. Je vais vous le présenter.
Aria s'éloigna en se disant « Héloïse a le cœur tendre et affecte d'être romanesque. C'est ce qu'il faut au major qui aime à poursuivre le gibier de ce genre. »
Pendant ce temps, la comtesse demandait au duc si la Philomène de Villamar était jolie.
« Elle n'est ni laide ni jolie, répondit celui-ci. Elle est très brune et n'a pas de très bonnes manières. Ses yeux sont beaux. En résumé, elle a un de ces ensembles comme on en voit partout dans notre pays.
Puisque sa voix est si remarquable, dit la comtesse, il faut pour l'honneur de ces villes que nous en fassions une prima donna. Ne pourrions-nous pas l'entendre ?
Quand vous voudrez, répondit le duc. Je la mènerai ici à une de vos soirées avec son mari qui est un excellent musicien et a été son maître.
L'heure de se retirer arriva. Quand le duc approcha de la comtesse pour prendre congé, celle-ci leva le doigt d'un air de menace.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda le duc.
« Rien, rien, » répondit-elle. « Cela veut dire « prenez garde ».»«
Prenez garde à quoi ?»«
Vous feignez de ne pas me comprendre. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. »
« Vous me mettez sur les épines, comtesse. »«
Tant mieux. »«
Au nom de Dieu, consentirez-vous à vous expliquer ?»«
Je le ferai puisque vous m'y forcez. » En disant « prenez garde », j'ai voulu dire « prenez garde de vous mettre une chaîne au cou. »«
Ah, comtesse, » répondit le duc vivement, « pour Dieu qu'un soupçon injuste et non fondé ne vienne pas flétrir la réputation d'une femme avant même que personne ne la connaisse. » Cette femme, comtesse, est un ange.
Supposons qu'il en soit ainsi. Les diables n'inspirent d'affection à personne.
Vous avez cependant 1000 adorateurs, dit le duc en souriant.
Je ne suis pourtant pas un diable, dit la comtesse, mais un peu devineresse.
Le tireur est en défaut quand il manque son but.
Je vous ajourne à 6 mois d'ici, invulnérable Achille, répondit la comtesse.
« Pour Dieu, taisez-vous, comtesse !» s'écria le duc. « Ce qui, dans votre belle bouche, n'est qu'une légère plaisanterie, serait un venin mortel dans la bouche de ces vipères qui pullulent dans la société. »«
Ne craignez rien, ce ne sera pas moi qui vous jetterai la première pierre. Je suis indulgente comme une sainte ou comme une grande pécheresse, sans être ni l'une ni l'autre. »
Le duc s'en allait, peu satisfait de cette conversation, quand il fut retenu à la porte par le général Santa Maria.
« Duc, lui dit-il, avez-vous jamais vu quelque chose de pareil ?»«
Quoi donc ? » dit le duc un peu sur ses gardes.
« Vous demandez quoi ?»«
Oui, je vous le demande et désirerais une réponse. »
« Un colonel de 23 ans ?»«
En effet, c'est un peu prématuré, » dit le duc en souriant.
« C'est un soufflet donné à l'armée. »
Il n'y a pas de doute.
C'est un impudent démenti au bon sens.
C'est vrai.
Pauvre Espagne ! S'écria le général en donnant la main au duc et levant les yeux au ciel.